Alors, nous voici à cette béatitude. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Bon, vous voyez, j'ai interverti. La dernière fois, on a fait la miséricorde. En fait, la miséricorde vient après la justice. Bon, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Mais voilà. Alors, juste en guise d'introduction, Jésus ne dit pas « heureux les caliméros ». Voilà, c'est ceux qui proclament bienheureux, c'est pas ceux qui ont un sentiment d'injustice envers eux-mêmes surtout. D'ailleurs, il y a une étude, c'est intéressant, qui montre que les jeunes sont plus sensibles aux injustices, mais dans la mesure où c'est vis-à-vis d'eux, mais les injustices vis-à-vis des autres, ils sont moins sensibles que quand les gens sont plus âgés. Alors là, c'est plutôt les injustices par rapport aux autres, pas d'abord par rapport à nous-mêmes, voilà, qui sommes... voilà. Hein, donc, quand Jésus dit « heureux les affamés assoiffés de la justice », ce n'est pas parce qu'on éprouve un sentiment d'injustice, pour nous-mêmes, en tout cas. Et au contraire, même, dans Saint-Pierre a des paroles assez fortes, hein, dans sa première lettre. C'est une grâce de supporter par motif de conscience devant Dieu des peines que l'on souffre injustement. Et alors, il parle de Jésus. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Voilà. Donc, Jésus ne proclame pas bienheureux ceux qui éprouvent un sentiment d'injustice par rapport à eux-mêmes. Hein, mais justement, ceux qui désirent la justice pour les autres et puis vis-à-vis de Dieu. Voilà, ça va pour l'introduction, je ne vous ai pas encore endormi. Bon, alors je vais essayer de vous dire, il y aura trois parties, mais bon. Trois parties, la première c'est comme toujours, ils seront rassasiés, plutôt sur la promesse. La deuxième, ça sera la faim et la soif de la justice elle-même. Alors là, c'est d'une part des relations justes avec Dieu, hein, qui est la sainteté, et d'autre part, les relations justes avec les autres, entre les hommes. On pourrait ajouter aussi avec la création, mais voilà, je ne développerai pas tellement. Ça, c'est la deuxième partie. Heureux les... c'est la faim et la soif de la justice, mais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prochain, on va dire. Et puis la troisième partie, je vais aborder quelques rapports entre la justice et l'amour, entre la justice et la miséricorde et le pardon, entre la justice et la grâce. Voilà. Pour bien situer ce que c'est que la justice, voilà. Ça va ? Bon, je démarre. Alors, donc, vous êtes habitués, donc, pour cette première partie, la promesse, hein, ils seront rassasiés. Vous êtes habitués au passif divin, maintenant. Donc, on nomme pas Dieu, mais c'est Dieu qui va rassasier. Hein. Ça tombe pas du ciel comme ça, d'une manière anonyme, mais c'est Dieu qui rassasie. Dans la Bible, on voit souvent que Dieu rassasie son peuple de diverses manières, mais on le voit dans toute la traversée du désert, bien sûr, hein, Dieu qui rassasie. Il y a la manne, les cailles, etc. Et puis, il y a pas mal de psaumes où on voit que Dieu rassasie son peuple. Okay. Mais Dieu rassasie son peuple aussi d'une autre manière, hein, voilà ce qui est dit dans le psaume 102. Il rassasie de bien ton désir, le désir du juste lui sera accordé. Alors là, le rassasiement n'est pas d'une manière matérielle uniquement, mais d'une manière. C'est Dieu qui vient nous combler, Dieu lui-même qui vient combler, et pas simplement par des biens matériels. Voilà. Alors, Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais Je peux que vous encourager à la lire, c'est une très très belle encyclique, Spe Salvi. Dans cette encyclique, Benoît XVI a tout un développement sur la justice. Et du coup, je vous en lis quelques petits passages, ou petits ou pas petits, je ne sais pas, mais... parce que je crois qu'il touche quelque chose d'important. L'athéisme des 19e et 20e siècles est, selon ses racines et sa finalité, un moralisme, une protestation contre les injustices du monde et de l'histoire universelle. Du coup, voilà, alors on revient, heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, justement, au 19e et au 20e siècle, beaucoup accusaient Dieu, ben, s'il y a de telles injustices, ben, Dieu il n'a pas l'air de faire grand-chose, grosso modo. Et ou alors, si de deux choses l'une, soit il est bon, mais il ne peut pas grand-chose, ou il n'existe pas, soit il existe, mais alors il n'est pas bon, parce que s'il existait, il ne devrait pas permettre des choses de telles injustices. Et du coup, la tentation, c'est l'homme lui-même qui veut établir la justice dans le monde. Donc, c'est pas « ils seront rassasiés », mais c'est « bon, voilà, on va, puisque Dieu s'en occupe pas, c'est nous qui allons nous en occuper ». Je vous cite Benoît XVI, « puisqu'il n'y a pas de Dieu qui crée une justice, il semble que l'homme lui-même soit maintenant appelé à établir la justice ». Mais en fait, on voit que, je continue avec Benoît XVI, c'est au numéro 42 de l'encyclique, que d'une telle prétention s'ensuivent les plus grandes cruautés et les plus grandes violations de la justice n'est pas un hasard, mais fondé sur la fausseté intrinsèque de cette prétention, la prétention de faire ce que Dieu n'est pas capable de faire, d'instaurer la justice. Et Benoît XVI continue dans le paragraphe 43, « Dieu existe et Dieu sait créer la justice d'une manière que nous ne sommes pas capables de concevoir et que cependant dans la foi nous pouvons pressentir. » Et il dit un peu plus loin, « Je suis convaincu que la question de la justice constitue l'argument essentiel, en tout cas l'argument le plus fort, en faveur de la foi dans la vie éternelle. » Je continue Benoît XVI. « Le besoin seulement individuel d'une satisfaction qui dans cette vie nous est refusée, de l'immortalité de l'amour que nous attendons, est certainement un motif important pour croire que l'homme est fait pour l'éternité, mais seulement en liaison avec le fait qu'il est impossible que l'injustice de l'histoire soit la parole ultime. » L'injustice de l'histoire ne peut pas être la parole ultime. « La nécessité du retour du Christ et de la vie nouvelle devient totalement convaincante. » Alors, je trouve que c'est assez intéressant de... alors, on y reviendra un petit peu plus loin sur la justice, mais le fait que quand on croit justement en l'éternité, quand on croit au ciel, quand on croit au purgatoire, quand on croit en l'enfer, c'est aussi parce qu'on croit qu'il y a une justice. Qu'on fasse... alors Dieu, il veut sauver tous les hommes, mais en même temps, ce qu'on fait sur la terre maintenant, c'est pas indifférent pour après. Hein? Alors bien sûr, Dieu désire sauver tous les hommes, mais il dit pas oh, peu importe ce que vous faites, faites même les pires atrocités, peu importe, tout le monde va au ciel. Non, ça c'est pas Dieu. Hein? Il y a une justice. Et du coup, à certains moments, on entendait dire « mais tout le monde ira au paradis », mais c'est une stupidité de dire quelque chose comme ça. C'est au contraire révoltant que Hitler soit à côté de Mère Teresa comme si de rien ne s'était passé, on ne comprendrait pas. Il y a une justice. Il y a une justice, alors, sur Terre, elle est bien imparfaite, mais du coup, ils seront rassasiés, hein, c'est un futur. Rassasiés pleinement, il n'y a qu'au ciel qu'on sera rassasiés pleinement, parce qu'on voit que sur Terre, voilà. Toujours dans cette perspective, ces derniers jours, lundi, c'était une lecture avec David, le roi David. Et il a une belle... Bon, après, hier, c'était il fait le recensement, donc il est, voilà, ça se passe mal. Mais à différents moments, David a une très belle réaction. Il se remet entre les mains de Dieu pour que ce soit Dieu qui fasse la justice. Hein, ils seront rassasiés, c'est un passif. Ce n'est pas moi qui me rend justice à moi-même. Et alors, je vous rappelle, vous pourrez aller voir peut-être 3 épisodes dans la vie de David qui me sont revenus en mémoire. Il y a, premier épisode, vous vous rappelez, c'est au début de l'histoire de David, quasiment. C'est au moment où Saül est affreusement jaloux. Il poursuit David pour le tuer, etc. Et à un certain moment, alors c'est très prosaïque, Saül va se soulager au fond d'une grotte. Ce qui se passe, c'est que David est là. Et qu'il suffirait de peu de choses pour que... Alors ceux qui sont... Oh, vas-y, tu seras tranquille. Et non, David, non, c'est pas moi qui dois me faire justice. Et c'est une fois qu'il est reparti, il dit, bah, tu vois, t'étais à ma merci, là, si je voulais. Et voilà, David qui ne se rend pas justice à lui-même. À un autre moment, il avait bien envie de se rendre justice. Et c'est Abigaïl qui vient à son devant pour qu'il n'extermine pas son mari et tout. Voilà. Et alors, David qui lui dit... Alors, le premier épisode, c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 24, verset 16. Hein, « Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. » Le deuxième épisode, c'est plus loin, c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 25. Alors David, quand il arrête de vouloir trucider le mari d'Abigaïl, il dit à Abigaïl: béni soit le Seigneur Dieu d'Israël qui t'a envoyé en ce jour à ma rencontre, béni soit ton intelligence et béni sois-tu toi qui m'as retenu aujourd'hui d'en venir au sang et de me sauver par ma propre main, me faire justice moi-même. Et puis il y a le troisième épisode qu'on entendait à la messe lundi matin, c'est quand il doit fuir devant son fils Absalom. Hein, donc, il y a une manière, quelquefois, on veut bien avoir la défaite, mais on veut que l'autre souffle le plus possible en même temps. Et là, ce n'est pas l'attitude de David. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui auraient été prêts à le soutenir, mais il s'est dit ça va être un carnage, etc. Il vaut mieux que je m'en aille avec quelques-uns. Et puis il y a le prêtre qui dit on emmène l'arche avec toi. Il dit non. C'est une belle attitude. Ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux du Seigneur, il me ramènera et me permettra de la revoir ainsi que son domaine. Mais s'il dit « Tu n'as plus ma faveur », alors me voici, qu'il me traite comme bon lui semblera. Et donc, on voit David aussi qui ne se rend pas justice à lui-même. Et après, on sait qu'Absalom va mourir et que David pourra rentrer à Jérusalem. Mais voilà, ils seront rassasiés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, ils seront rassasiés. C'est aussi vraiment s'en remettre entre les mains de Dieu à un certain moment. Bon, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut toujours rester les bras croisés. Hein. Ce n'est pas ça que je veux dire non plus, mais voilà. De remettre sa cause entre les mains de Dieu. Ça, c'était plutôt pour justement la récompense. Ils seront rassasiés parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Après, maintenant, je vais développer un petit peu le deuxième point, donc la faim et la soif de la justice. La faim et la soif, c'est des désirs assez forts hein, qu'on peut avoir. Alors, nous, on l'éprouve peut-être pas trop la soif en Picardie, mais il y a d'autres lieux où ils éprouvent la soif. Et puis la faim, bon, on est dans un pays où globalement, on ne meurt pas de faim, hein, on ne peut pas dire. Voilà, mais c'est des désirs qui sont... C'est un besoin naturel, un besoin vital. Mais quelque part, donc, dans la justice, alors il y a la justice vis-à-vis de soi-même, c'est une chose, mais c'est vrai que quand on est conscient de certaines injustices, ça, Avoir faim et soif de la justice, c'est justement celui qui ne reste pas indifférent quand il y a des injustices. C'est celui, voilà, ça lui tient à cœur vraiment. Hein, c'est viscéral, voilà, il ne peut pas rester comme ça. Et alors, donc, il y a, comme je vous le disais, il y a la justice, c'est dans la relation avec Dieu, et puis la relation avec les autres. On parle de la justice dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1807. Et voilà ce qui est dit. La justice est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Donc, cette volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Voilà. Donc on va d'abord voir avec Dieu et puis après avec le prochain. En 1807, dans le catéchisme de l'Église catholique. Et le pape François prend aussi ces deux dimensions dans le numéro 79 de Gaudete et Exultate, hein, la lettre pour la sainteté, où il nous invite à être des saints. Et voilà ce qu'il dit, d'abord en ce qui concerne le bon Dieu. La justice dont nous devons avoir faim et soif doit commencer à devenir réalité dans la vie de chacun lorsque l'on est juste dans ses propres décisions. Et donc cette justice, alors quelquefois il y en a qui le traduisent par justesse, d'autres par sainteté finalement. C'est vraiment être, rendre à chacun ce qui lui est dû, en l'occurrence à Dieu, c'est d'être saint, hein, c'est ce que Dieu attend de nous. Donc c'est, vous le dites d'une autre manière, c'est ce désir de vivre selon la volonté de Dieu, hein, d'ajuster notre vie, ajuster notre vie à ce que Dieu désire pour nous et voilà, à vivre en conformité avec notre vocation. Cette justice, dans l'Ancien Testament, désirer la justice, c'est chercher le Seigneur. Alors il y a beaucoup de psaumes, hein. Il y a le psaume 42, 63, alors ça dépend des numérotations. Il y a ce désir, je pense, ce verset d'Amos. « Voici que les jours viennent, oracle du Seigneur, où j'enverrai la faim sur la terre, non pas une faim de pain, mais une soif d'eau, mais la soif d'entendre les paroles du Seigneur. » Voilà, c'est cette faim et cette soif du Seigneur et pas seulement du pain et de l'eau. Alors pour nous, ça peut être la question de nous poser la question, est-ce que j'ai faim de cette sainteté? De quoi j'ai faim dans ma vie? Qu'est-ce qui est l'objet de mes désirs? Ou dit d'une autre manière, quelle place Dieu occupe-t-il dans mes fins? Est-ce que j'ai des grandes fins pour plein de choses et une petite fin pour le bon Dieu? Voilà, qu'est-ce qui... C'est un peu les priorités aussi dans notre vie. Alors c'est aussi ce qui est dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ou Jésus qui dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, de mon Père. Oui, la fin de la parole de Dieu, la fin de savoir ce que Dieu désire. Alors, vous, de ce point de vue-là, ça c'est les béatitudes de Saint Matthieu que je commente, parce que dans la béatitude de Saint Luc, c'est affamé tout court, mais Saint Matthieu affamé de la justice. Hein, donc, comme dit le Don Dupont, hein, le spécialiste des béatitudes, Matthieu, quand il emploie le mot justice, veut dire faim et soif intérieure de la sainteté. Il spiritualise. La justice de Dieu, c'est finalement, c'est aussi accomplir les commandements. C'est vivre selon l'Évangile, c'est voilà, avoir faim et soif de la justice. Voilà, sachant que les commandements, le sommet des commandements, c'est d'aimer Dieu et son prochain. Hein. Donc c'est la première forme, on peut dire, il y a deux aspects dans cette justice, c'est la justice dans notre relation avec Dieu, qu'on ait une relation ajustée avec Dieu, et puis après dans la justice dans nos relations avec les autres, ça traverse toute l'écriture, de ne pas favoriser le riche ou le puissant ou... je vous cite par exemple le Lévitique au chapitre 19, verset 15. Tu n'auras ni faveur pour le petit, ni complaisance pour le grand. C'est avec justice que tu jugeras ton prochain. C'est donc Lévitique, chapitre 19, verset 15. Donc le pape François insiste aussi sur cet aspect-là. Il est vrai que le mot justice peut être synonyme de fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie, mais si nous lui donnons un sens très général, nous oublions qu'elle se révèle en particulier dans la justice envers les désemparés. Et du coup, le Seigneur qui veut réveiller notre sensibilité par rapport aux injustices, pour rechercher la justice pour les pauvres et les faibles. Voilà. Toujours dans son encyclique sur l'espérance, à un moment, le pape Benoît XVI disait que, justement, c'était important d'être capable aussi d'accepter la souffrance. Je vous cite, c'est au numéro 38. La capacité d'accepter la souffrance par amour du bien, de la vérité et de la justice est constitutive de la mesure de l'humanité. Parce que si en définitive mon bien-être, mon intégrité sont plus importants que la vérité et la justice, alors la domination du plus fort l'emporte, alors règne la violence et le mensonge. La vérité et la justice doivent être au-dessus de mon confort et de mon intégrité physique. Autrement, ma vie elle-même devient un mensonge. Voilà, faim et soif de la justice, mais là, c'est plus dans la justice, dans les relations avec les gens.
La vérité et la justice doivent être au-dessus de...
La vérité et la justice de mon confort et de mon intégrité physique. Ça, c'est dans Spe Salvi numéro 38. Du coup, l'Évangile nous invite, Jésus nous invite vraiment à avoir à cœur la justice dans le monde aussi. On ne peut pas s'en désintéresser. Alors, il y en a qui sont plus directement impliqués, mais on ne peut pas être indifférent en tout cas. Mais en même temps, dans cette faim et soif de la justice, Jésus n'encourage pas non plus la révolution, une révolution sanglante pour parvenir à la justice. Alors après, les uns et les autres prennent des moyens assez variés. Il y en a qui ont des... Voilà, chacun peut faire preuve d'imagination, justement, pour œuvrer pour la justice. Alors après, on peut manifester si on estime que c'est pas. Après, les moyens qu'on propose, c'est pas des moyens violents, hein, mais en même temps, c'est important qu'on ait notre place. Alors je sais pas si vous vous présentez au municipal ou pas, mais c'est vrai que C'est compliqué, hein, quelquefois, mais c'est bien qu'il y ait des chrétiens qui s'investissent, même si ce n'est pas forcément très, très simple. Mais c'est bien qu'on soit investi et qu'on ne soit pas spectateur. Et bon, chacun, selon ce qu'il voit pour lui, hein, il n'y a pas une voie unique. Hein, je pense que. Mais clairement, on doit être attentif aussi, parce que c'est vrai qu'il y a certaines lois qui créent des injustices, hein, des lois humaines qui. Alors, voilà. Alors, dernière partie, ça risque d'être plus court que d'habitude. Hein. Dernière partie, c'est les rapports entre justice, amour, miséricorde et grâce. D'abord, entre justice et amour. C'est Proudhon qui disait, d'une manière un peu méprisante, « Nous n'avons pas besoin de votre charité, nous voulons la justice. » Il n'avait pas forcément tort. Il y a des très beaux passages de Benoît XVI dans son encyclique Caritas in Veritate. Hein, c'était en 2009. Alors, il y a tout un paragraphe justement sur ce rapport entre la charité et la justice. Grosso modo, il dit, avant de faire la charité à l'autre, donne-lui d'abord ce que tu lui dois. Hein. Après, on verra, mais si, pas confondre les choses. Alors, je vous lis un peu Benoît XVI. Là, c'est assez clair. C'est au numéro 6 de Caritas in Veritate. La charité dépasse la justice parce que aimer, c'est donner, offrir du mien à l'autre. Mais elle n'existe jamais sans la justice, qui amène à donner à l'autre ce qui est sien, c'est-à-dire ce qui lui revient en raison de son être et de son agir. Je ne peux pas donner à l'autre du mien sans lui avoir donné tout d'abord ce qui lui revient selon la justice. Qui aime les autres avec charité est d'abord juste envers eux. Non seulement la justice n'est pas étrangère à la charité, non seulement elle n'est pas une voie alternative ou parallèle à la charité, la justice est inséparable de la charité, disait Paul VI. Elle lui est intrinsèque. La justice est la première voie de la charité, ou comme disait Paul VI, son minimum, une partie intégrante de cet amour en acte et en vérité, auquel l'apôtre Saint Jean exhorte. D'une part, la charité exige la justice, la reconnaissance et le respect des droits légitimes des individus et des peuples. Elle s'efforce de construire la cité de l'homme selon le droit et la justice. D'autre part, donc elle exige la justice, mais d'autre part, la charité dépasse la justice et la complète dans la logique du don et du pardon. Alors, avec des rapports de gratuité, alors justement, le pape Benoît XVI parlait de la gratuité aussi dans cette encyclique sociale. Ou alors dans un autre discours, voilà ce que disait Benoît XVI, « La charité sans justice n'est pas telle, mais elle est seulement une contrefaçon de la justice, de la charité. » Et alors là, c'est encore dans un autre discours, c'est un discours à la Rote romaine, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la Rote romaine. En tout cas, c'est notamment qui est chargé pour les déclarations de nullité pour les mariages. Et du coup, il parle dans ce contexte-là, dans différents contextes, il parle de la charité et de la justice, mais il en parle notamment dans le contexte des causes matrimoniales. Je voudrais aujourd'hui souligner que la justice, autant que la charité, ont pour postulat l'amour de la vérité et comportent essentiellement la recherche du vrai. Dépourvu de vérité, l'amour bascule dans le sentimentalisme. L'amour devient une coque vide, susceptible d'être arbitrairement remplie. C'est le risque mortifère qu'affronte l'amour dans une culture sans vérité. Il est la proie des émotions et de l'opinion contingente des êtres humains. Il devient un terme galvaudé et déformé jusqu'à signifier son contraire. Du coup, là, il insiste beaucoup. Oui, la charité, oui, c'est très bien. L'amour, c'est très bien. Mais et d'abord, est-ce que c'est un amour qui est vrai? Parce que si c'est simplement un sentiment d'amour, on peut arriver aux pires injustices avec... Bon, j'abandonne ma femme, puisque j'ai un sentiment d'amour pour quelqu'un d'autre, ben, c'est une injustice. C'est une injustice. Donc, et il dit, attention au sentiment, hein, l'amour, il se fonde sur la vérité, pas sur le sentiment, d'abord. Alors, bien sûr qu'il y ait des sentiments, tant mieux, hein, voilà. Sinon, l'amour bascule dans le sentimentalisme. Hein, c'est un amour viril auquel nous sommes invités, pas un amour uniquement sentimental. Voilà, pour ce rapport entre justice et charité, justice et amour. Voilà. L'amour sans justice n'est pas un véritable amour, c'est une contrefaçon. Après, donc, le lien entre la justice, la miséricorde et le pardon. Alors, de fait, la béatitude de la justice arrive avant la béatitude de la miséricorde. Je crois, enfin, j'en suis sûr, mais... Hop. Vous vous rappelez où elles se trouvent, les béatitudes, à tout hasard? Je vous les relis, ça ne nous ferait pas de mal. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors la deuxième et la troisième sont quelquefois interverties selon les traductions. Mais après, heureux les affamés, assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Et après, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais après, on aura heureux les artisans de paix, donc il y a ce lien entre la paix et la justice aussi. Hein, mais bon. Voilà, en tout cas, là, on en reste sur la justice. Jean-Paul II avait écrit, en 2001, donc, il y a les attentats, le 11 septembre, c'est une date qu'on a retenue, je crois. Et trois mois après, Jean-Paul II a rédigé un message pour le... Vous savez que le 1er janvier de chaque année est une journée mondiale pour la paix. Enfin, l'Église est prise pour la paix d'une manière particulière le 1er janvier. Et à cette occasion, le pape écrit toujours un message. Et le titre du message pour la paix, là, en 2002, pour le 1er janvier 2002... Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. Alors, est-ce que c'est vrai ça? On a un a priori positif pour le pape, mais... Il n'y a pas de justice sans pardon. On pourrait penser, ben non, on fait d'abord la justice et puis après on verra pour le pardon. Mais en fait, justement, Jean-Paul II dit, bien sûr, on ne va pas... La justice, on ne renie pas la justice, mais peut-être que quelquefois il faut une démarche de pardon pour parvenir à rétablir la justice. Parce que s'il n'y a pas une démarche intérieure, on risque de ne pas y parvenir. Alors je vous cite quelques lignes de Jean-Paul II, parce que quelquefois, du coup, on a tendance à opposer la justice et la miséricorde. En fait, elles ne s'opposent pas, et c'est bien de voir un peu comment, si ça peut nous aider à mieux le vivre aussi. Hein. Alors, je vous cite donc Jean-Paul II. Le pardon s'oppose à la rancune et à la vengeance, non à la justice. Le pardon s'oppose à la rancune et à la vengeance, et non à la justice. Donc, c'est au numéro 3 de son message pour la paix, hein, si vous voulez. Donc il s'agit de veiller au plein respect des droits et des devoirs, hein. Mais parce que la justice humaine est toujours fragile et imparfaite, exposée qu'elle est aux limites et aux égoïsmes des personnes et des groupes, elle doit s'exercer et en un sens être complétée par le pardon qui guérit les blessures et qui rétablit en profondeur les rapports humains perturbés. Je trouve que c'est intéressant rétablir en profondeur les rapports humains perturbés. Parce que la justice, ça ne suffit pas pour rétablir une relation. Si vous vous êtes brouillé avec quelqu'un, bon, peut-être il y a eu une sentence qui, voilà, et puis on se met d'accord. Mais ça, c'est une chose, mais pardonner, c'est une autre affaire. Et quelquefois, justement, une forme de pardon, ça aide à arriver à une forme de justice. Prends un exemple qui me vient à l'esprit. Bon, il y en aurait des dizaines, hein, mais mettons entre Israël et les Palestiniens, si chacun comptabilise de ce côté tout ce que l'autre l'a fait souffrir, bon, on n'en sortira jamais. Parce que après, si quelque part pour rétablir la justice, il faut que ça soit un peu détendu quelque part. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais je l'ai sans doute raconté une fois ici, on a eu un souci avec une entreprise. Ils avaient mal travaillé, je crois que ça c'est objectif. C'était dans une maison, c'était justement pour que ça soit habilité pour recevoir du public. Donc il fallait que des portes anti-feu, etc. Et puis. Je trouvais ça bizarre. Alors, avec un ami, on a démonté le tour d'une porte. On a regardé un peu ce qu'il y avait autour. Et en fait, il n'y avait pas du tout l'isolation qui était promise. Alors, à la réunion de chantier suivante, je savais de quoi je parlais. Je dis non, à mon avis, ce n'est pas bien. Il faudrait revoir ça. Le monsieur était furieux, tout ça. Bon, j'ai dit tant pis, c'est comme ça. Je veux voir. Bon. Et 3 jours après, il revient avec une petite équipe, ses camions, et ils repartent avec toutes les fenêtres de la maison, les fenêtres et portes qu'ils avaient posées dans la maison. C'est au mois d'octobre. Alors, du coup, moi, j'étais un peu ennuyé, mais en même temps, comment résoudre dans la justice, et voilà. Alors bon, je fais les démarches nécessaires, mais après, soit on partait dans un procès, soit on trouvait un compromis. Alors, mais accepter un compromis, c'est accepter aussi d'y laisser quelques plumes, et d'accepter Donc, on a trouvé un compromis, et puis ils sont venus remettre les portes, et voilà, avec une petite indemnité. Voilà, mais il fallait trouver un compromis. Si on était trop bloqués, chacun de notre côté, on portait pour un procès pendant des mois, des années, et puis pendant ce temps-là, la maison, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, du coup, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Si la miséricorde ou une forme de pardon ne passe pas un peu en avant, les choses sont trop bloquées et puis on n'y arrive pas. Hein, je crois que c'est, pour une part, je pense que c'est, il n'y a pas de justice sans pardon. Je crois que c'est, voilà, on a besoin quand même de mettre un peu d'eau dans notre vin pour parvenir à... Alors, je continue ce que disait Jean-Paul II. Le pardon ne s'oppose d'aucune manière à la justice, car il ne consiste pas à surseoir aux exigences légitimes de réparation de l'ordre lésé. Le pardon vise plutôt cette plénitude de justice qui mène à la tranquillité de l'ordre, celle-ci étant bien plus qu'une cessation fragile et temporaire des hostilités. C'est la guérison en profondeur des blessures qui ensanglantent les esprits. Pour cette guérison, la justice et le pardon sont tous les deux essentiels. Le pape François en a parlé aussi. de ce rapport entre la justice et la miséricorde dans la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde. Alors, il l'aborde d'une manière un petit peu, un peu différente, mais complémentaire. La miséricorde n'est pas contraire à la justice, mais illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de croire. Ce qu'a vécu le prophète Osée nous aide à voir le dépassement de la justice par la miséricorde. Alors, le prophète Osée, j'ai pas pris tout dans son ensemble. Alors, en tout cas, le prophète Osée, clairement, Dieu lui demande de prendre une prostituée comme femme, etc. Mais c'est dans la vie des prophètes, c'est aussi quelque chose de symbolique pour traduire la relation entre Dieu et son peuple. Voilà, et pour traduire justement cette miséricorde que Dieu et cette nouvelle chance que Dieu donne à son peuple. Et alors voilà ce que dit Saint Augustin, il est plus facile pour Dieu de retenir sa colère plutôt que la miséricorde. La miséricorde, il a du mal à retenir. Sa colère, il y arrive. Voilà. La colère de Dieu ne dure qu'un instant et sa miséricorde est éternelle. Voilà. Dieu va au-delà de la justice avec la miséricorde et le pardon. Cela ne signifie pas dévaluer la justice ou la rendre superflue, au contraire. Qui se trompe devra purger sa peine. Mais ce n'est pas là le dernier mot, mais le début de la conversion, en faisant l'expérience de la tendresse du pardon. Dieu ne refuse pas la justice. Il l'intègre et la dépasse dans un événement plus grand dans lequel on fait l'expérience de l'amour, fondement d'une vraie justice. Mais pour nous aussi, c'est quand on est bloqué, on n'a pas envie de faire des efforts. Mais quand l'autre nous fait des... comment dire... Et il nous donne comme déjà par avance son pardon, alors on est disposé à bouger. Dans l'Ancien Testament, c'est pas le pape qui dit ça, mais dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle juste lorsqu'il juge, qu'il récompense ou qu'il punisse. Il se montre plus juste encore lorsqu'il délivre et sauve. Alors ça, c'est pour, en quelques mots sur ce rapport entre la miséricorde et la justice, hein, qui ne s'oppose pas, mais qui se compénètre aussi. Hein, pour eux. Et puis le rapport entre la justice et la grâce. Alors je reviens à Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, au numéro 44 cette fois-ci. Dans la justice de Dieu, il y a aussi en même temps la grâce. Nous le savons en tournant notre regard vers le Christ crucifié et ressuscité. Justice et grâce doivent toutes les deux être vues dans leur juste relation intérieure. La grâce n'exclut pas la justice. Elle ne change pas le tort en droit. À la grâce, ce n'est pas une éponge qui efface tout, de sorte que tout ce qui s'est fait sur la terre finisse par avoir toujours la même valeur. À la fin, au banquet éternel, les méchants ne siégeront pas indistinctement à table à côté des victimes, comme si rien ne s'était passé. Dans la parabole du riche bon vivant et du pauvre Lazare, Jésus nous a présenté en avertissement l'image d'une telle âme ravagée par l'arrogance et par l'opulence, qui a créé elle-même un fossé infranchissable entre elle et le pauvre, le fossé de l'enfermement dans les plaisirs matériels, le fossé de l'oubli de l'autre, de l'incapacité à aimer qui se transforme maintenant en une soif ardente et désormais irrémédiable. Alors dans cette encyclique sur l'espérance, Benoît XVI présenterait plusieurs lieux d'espérance. Il présentait, ce qui n'était pas spontané, en tout cas pour moi, il présentait le jugement comme un lieu d'espérance. Alors, il dit, mais, au début, il disait, mais le jugement, a priori, nous, ça nous fait plutôt peur. On voit la balance là, sur les frontons des... Et puis, voilà, est-ce que ça, on va pencher du bon côté? Et puis... mais en fait, non. Et alors, il dit, effectivement, on avait insisté peut-être sur le côté un peu macabre ou un peu pour faire peur aussi, pour responsabiliser, ce qui n'est pas inutile quelquefois de se responsabiliser un peu parce que nos actes d'aujourd'hui ont un poids, hein, c'est pas indifférent. Mais en même temps, le jugement, c'était d'abord une image de la grâce de Dieu. Alors, je vous lis toujours le pape Benoît XVI. Le jugement de Dieu est espérance, aussi bien parce qu'il est justice que parce qu'il est grâce. S'il était seulement grâce, qui rend insignifiant tout ce qui est terrestre, Dieu resterait pour nous un débiteur de la réponse à la question concernant la justice. Question décisive pour nous face à l'histoire et face à Dieu lui-même. Donc, s'il était seulement grâce. S'il était pure justice, il pourrait être à la fin pour nous tous seulement un motif de peur. L'incarnation de Dieu dans le Christ a tellement lié l'une à l'autre, justice et grâce, que la justice est établie avec fermeté. Nous attendons tous notre salut dans la crainte de Dieu en tremblant. Malgré cela, la grâce nous permet à tous d'espérer, d'aller plein de confiance à la rencontre du juge que nous connaissons comme notre avocat, Paraclétos. Voilà, donc, la grâce n'exclut pas la justice et la justice de Dieu est grâce aussi. Dieu fait grâce. Alors, il y a un beau texte de Saint Pierre d'Amiens, peut-être en guise de conclusion, qui invite à rechercher la justice pour soi-même et la miséricorde pour les autres. Oh, tu dois être austère et rigide avec toi-même, mais paraître toujours joyeux et ouvert avec les autres. T'efforçant en ton cœur de cheminer sur les sommets de la droiture, tout en sachant t'abaisser avec bonté vers les faibles. Bref, devant le jugement de ta conscience, tu dois modérer les rigueurs de la justice, de telle sorte que tu ne sois pas dur pour les pécheurs, mais accessible au pardon et indulgent. On pourrait compléter quand même, peut-être sur ce passage, Saint François de Sales nous dit qu'il faut aussi apprendre la douceur et la miséricorde envers soi-même. Parce que quelquefois, on est assez intransigeant envers soi-même. Ça dépend des personnes. Hein. Il y en a qui sont très indulgents envers eux-mêmes, mais durs avec les autres. Mais quelquefois, on est dur avec les autres, mais avant même, on est dur avec soi-même. Donc, on est soi-même, on est le premier prochain à qui on doit faire miséricorde aussi. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier. La vraie justice n'est pas celle qui précipite les âmes des frères dans le piège du désespoir. Voilà, c'était Saint-Pierre d'Amiens qui disait ces choses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, de fait, on peut entendre plusieurs choses. La grâce, c'est aussi l'amour de Dieu qui nous est donné. La grâce, elle se présente sous plusieurs formes selon qu'elle est. On la conçoit comme vraiment cette. Oui, c'est l'Esprit Saint qui nous est donné, hein, la grâce de Dieu qui nous est donnée. Mais quelquefois, on conçoit la grâce aussi comme une aide qui nous est donnée pour aller de l'avant. Mais en même temps, on sait bien que c'est l'amour qui nous aide à aller de l'avant. Hein, quand on sait aimer, on va plus facilement de l'avant. Alors, voilà. Mais c'est vrai que c'est un mot qui nous apparaît peut-être quelquefois un petit peu abstrait, la grâce. La grâce, ça a quelque chose à voir aussi avec la gratuité, hein, ce qui est, qu'on n'a pas mérité, qui nous est vraiment donné. généreusement. C'est quelque chose qui est pas au bout de nos efforts, hein, qui précède nos efforts aussi, la grâce. Le rapport entre le purgatoire et la justice, mais c'est qu'à la fin de notre vie, il y a le jugement particulier, ce qu'on appelle, et puis après il y a le jugement général, mais jugement particulier, ma petite dame, vous vous rappelez? Alors c'est le but, c'est pas de nous torturer, mais je pense que c'est nous-mêmes d'abord qu'on aurait trop honte d'être en présence de Dieu. Je suis allé à un documentaire sur les expériences de mort imminente, et il y avait une expérience qui était assez belle. C'était quelqu'un qui n'était pas croyant. Il rejetait vraiment Jésus, etc. Et puis, il fait cette expérience de mort imminente. Et puis, il est comme tiré vers un lieu où c'était de plus en plus violent, etc. Et à un certain moment, il savait plus comment faire, il crie Jésus, et à ce moment-là, les choses s'inversent. Et alors, il y en a qui l'accompagnent vers un lieu où c'est vraiment, les relations sont heureuses, et voilà. Et c'est lui, à ce moment-là, qui résiste. Non, mais vous vous trompez, moi, je ne suis pas digne. Je peux pas. Si, tu as appelé. Mais alors, je pense que le purgatoire, quand on arrive, je pense, je n'ai pas fait l'expérience, mais je pense que soi-même, on dit, je suis pas digne. Je peux pas. On se sent trop en décalage. Et alors, le purgatoire, c'est, alors ça se compte pas en minutes, en heures, comme c'est, on n'est plus dans le temps tel qu'on le vit maintenant, mais c'est en tout cas, un processus qui se fait pour qu'on soit prêt, prêt à nous acclimater en quelque sorte à la vie du ciel. Voilà. Alors la justice, c'est que c'est pas indifférent ce qu'on a fait. Si on a fait des choses mauvaises, est-ce qu'on les regrettera? Est-ce que vraiment on veut dire non? Vraiment, je demande pardon pour ça. Où est-ce qu'on tient vraiment à son péché? On veut se justifier. C'est ça que, quand on veut à tout prix se justifier, c'est ennuyeux parce qu'on ne part pas dans le bon sens. Si ce qu'on a fait de mal, on veut le justifier, c'est un peu ennuyeux. Hein, parce que du coup, la grâce, elle opère si on veut bien. Hein, mais Dieu ne nous fait pas entrer de force au ciel. Il faut accepter aussi. Mais ça suppose accepter, oui, non, c'est vrai, c'était nul ce que j'ai fait là. J'aurais pas dû. Il faut l'accepter. Certains qui sont trop endurcis, peut-être ils auront du mal à dire, ils feront trop corps avec leur péché, pour ainsi dire. Mais si on fait trop corps avec son péché, on ne peut pas. Si on accepte de le mettre de la. Dieu, il peut tout pardonner, Dieu. Mais il faut qu'on accepte d'être pardonné. C'est plutôt ça, le problème. Voilà. Parce qu'il y a... Et il faut accepter que, oui, telle ou telle souffrance de Jésus, c'est moi qui en étais responsable, quelque part. Si Jésus a dû aller jusque-là, c'est entre autres pour mes... D'accepter sa responsabilité dans le mal. De dire, je demande pardon. Parce qu'il y a une justice. On ne peut pas dire, non, vous inquiétez pas, on passe une éponge et puis voilà. Voilà. Non. Donc il y a une justice. Mais Dieu, son but, c'est de nous sauver. Hein. C'est pas de nous coincer. Voilà. Il est avec ses lunettes au bord de la route. J'espère que je vais faire une bonne boisson pour l'enfer. Non, c'est pas ça, mon Dieu. Je critique en rien ceux qui... qui peuvent aussi protéger des vies. Hein. Le but, c'est pas tant. Mais le bon Dieu, il ne nous attend pas au tournant en espérant qu'il ait plus de... Non, son désir, c'est que tout le monde aille au ciel. C'est plutôt le diable qui serait content, oui, quand... Encore un. Mais peut-être que vous vous rappelez de cette phrase de saint Paul, c'est dans l'épître aux Romains, quand il parle de justement, on croit qu'il y a une surabondance de l'amour de Jésus et par rapport au péché. Hein, il n'en va pas du péché comme de la grâce. Comment je ne sais plus où c'est exactement, mais on devrait finir par le retrouver. Oui, oui, oui. Alors, je pense que c'est au chapitre 5, je peux me tromper. Alors il y a ça. Oui, c'est saint Paul. Alors, voilà. Il n'en va au verset 15 du chapitre 5. Il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul la multitude est morte, combien plus, hein, le combien plus, la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Donc, et du coup, ce chapitre 5 des Romains, verset 15 et suivant. C'est les indulgences, ça repose sur cette conviction que si nos torts peuvent être pardonnés et toutes les séquelles de notre péché peuvent être pardonnées, c'est parce que on pense qu'il y a au bout du compte plus de d'abord le Jésus, mais aussi tout ce que les saints et tous les actes d'amour et tout ça qu'ils ont pu poser, ça pèse plus lourd dans la balance que toute la méchanceté qu'on a pu faire. Et du coup, voilà pourquoi on peut appliquer des indulgences, en quelque sorte. Parce qu'on pense que, voilà. C'est ce combien plus, hein, combien plus la grâce de Dieu, les dons conférés par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. On ne met pas équivalence le péché et puis la grâce.